Bonjour, bienvenue dans Politique. Notre invité aujourd'hui, François Asselin. Bonjour François Asselin.
Bonjour.
Vous êtes chef d'entreprise, vous présidez la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, qui compte 150 000 entreprises et 3 millions de salariés. Vous avez été reconduit à la tête de cette organisation en début d'année pour un deuxième mandat. Alors rien ne change, du moins jusqu'au 1er décembre. Les commerces considérés comme non essentiels restent fermés. Le télétravail est toujours le mode privilégié pour exercer son activité. Le gouvernement a donc annoncé cette semaine la reconduction à l'identique du dispositif de reconfinement dans l'attente d'une confirmation de ses effets sur la propagation de l'épidémie. Pour nombre de commerces et d'entreprises qui espéraient un allègement de ce dispositif, le coup est rude, a fortiori à quelques semaines des fêtes de Noël. Perte d'activité, problèmes de trésorerie, les mesures d'aide nombreuses avancées par le gouvernement ne suffiront pas à atténuer la morosité ambiante, d'autant qu'aux difficultés économiques s'ajoute la crise sociale. Dans un rapport publié avant-hier, par exemple, le Secours catholique pointe la forte progression de l'extrême précarité en France alors que le taux de chômage repart à la hausse. Alors, lors du premier confinement, il avait beaucoup été question d'un monde d'après, plus juste, plus solidaire. Qu'en est-il cette fois-ci? La période peut-elle être propice à de nouvelles façons d'envisager le travail et son organisation? Et les entreprises sont-elles en mesure d'y contribuer? Eh bien, voici quelques-unes des questions que nous allons aborder en votre compagnie pendant la prochaine demi-heure, François Asselin. Mais avant d'évoquer ces questions à travers les fonctions qui sont les vôtres à la tête de la CPME, je voudrais qu'on parle de votre rôle de chef d'entreprise. Vous dirigez une entreprise du bâtiment spécialisée dans la restauration de bâtiments anciens. Quel impact le reconfinement a-t-il sur votre activité?
Alors, on a eu dans le premier confinement un impact immédiat qui a été, on avait 44 chantiers en ligne dans l'entreprise. Et dans les 10 jours qui ont suivi l'annonce du président de la République, restez chez vous, rappelez-vous. Eh bien, ces 44 chantiers se sont fermés les uns après les autres, que ce soit des chantiers privés ou publics. Donc, on s'est retrouvé sans activité. Alors, j'ai la chance d'avoir un atelier de charpente et un atelier de menuiserie qu'on a continué à pouvoir faire fonctionner parce qu'on a la chance, quand on transforme du bois, d'être équipé en masque FFP2 pour la poussière. Et donc, on avait assez de stock pour travailler quelques semaines, c'est ce que nous avons fait. Le surstock, on l'a donné à ceux qui en avaient le plus besoin, les personnels soignants. Si bien qu'on a quand même réussi à garder un petit peu d'activité, et puis au fur et à mesure, avec des mesures sanitaires renforcées, des protocoles, eh bien, nous avons pu commencer à réouvrir nos chantiers. Et aujourd'hui, eh bien, on peut continuer à travailler. Donc, je peux vous dire que c'est quand même une chance.
Ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin, par exemple, François Asselin, de recourir à des mesures de chômage partiel, voire à des licenciements, par exemple?
Pendant le premier confinement, il a fallu malheureusement recourir aux mesures de chômage partiel parce que vous n'avez plus d'activité ou vous gardez un embryon d'activité. Toutes les fonctions support de l'entreprise, eh bien, elles se retrouvent sans travail. Et puis tous les menuisiers, charpentiers qui allaient en déplacement, n'ayant plus de chantier, eh bien, vous êtes obligés de les laisser chez eux. On n'a pas les moyens de se permettre de payer des gens à rien faire sans facturer en face. Donc, il a fallu faire recours au chômage partiel. Au tout début, c'était laborieux, mais il faut le reconnaître que l'administration a quand même fait un énorme travail par la suite et nous avons été rapidement remboursés de ces demandes de chômage partiel. Aujourd'hui, l'activité n'est pas revenue malheureusement au niveau de celle qui était antérieure avant ces périodes Covid. Mais pour autant, on a quand même cette grande chance de travailler parce que dans notre pays, vous savez, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance, malheureusement.
Alors, c'est notamment le cas, justement, François Asselin, d'un certain nombre de commerces qui sont fermés depuis l'annonce du reconfinement. Des commerces, des clients, des entrepreneurs qui étaient évidemment suspendus aux annonces qu'allait faire Jean Castex, le chef du gouvernement, c'était avant-hier, avec des espoirs sans doute en partie douchés par le Premier ministre.
Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler et sont très inquiets de ne pouvoir rouvrir assez tôt avant les fêtes de fin d'année. Notre objectif est bien de pouvoir y parvenir. Le deuxième enseignement que je tire est que nous devons évidemment continuer à apporter un soutien économique massif à tous les commerces et toutes les entreprises qui ont été contraintes de fermer.
François Asselin, donc je rappelle que vous présidez la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous avez réagi après l'annonce de Jean Castex il y a 48 heures en disant « le décor est planté, on peut espérer rouvrir à partir du 1er décembre ». Ça, c'est ce qu'a dit le Premier ministre. « La belle surprise, dites-vous encore, sera de pouvoir rouvrir le week-end du 27 novembre ». Est-ce que vous avez des indications vous laissant penser que les commerces pourraient rouvrir peut-être un peu plus tôt que le 1er décembre ?
C'est un cri d'espoir que je pousse. C'est-à-dire que lorsque le Premier ministre a fait ses annonces, il l'a fait le 12 novembre, il a parlé de 15 jours. Donc vous faites 12 plus 15, nous serions le 27 novembre. Donc nous, ce que nous espérons, c'est d'avoir un week-end supplémentaire avant les fêtes de fin d'année pour pouvoir réouvrir le plus tôt possible et puis éviter de concentrer sur, si nous arrivons à réouvrir avant Noël, d'éviter de concentrer un maximum de clientèle sur quelques week-ends. Ça ferait un week-end supplémentaire. Donc nous nous battons aujourd'hui auprès du gouvernement pour que ce schéma puisse aboutir.
Quand vous dites on se bat auprès du gouvernement, vous battez auprès de qui précisément ? Est-ce que c'est directement avec les services de Matignon que vous discutez ? Est-ce que c'est avec votre ministre de tutelle ? Il y a un ministre en charge des PME, il faut le rappeler, hein, même s'il n'est pas très connu, c'est Alain Grisé. C'est avec lui que vous discutez, que vous vous concertez ?
Alors on discute surtout avec le Premier ministre et le ministre de l'économie. Et donc, parce que ça touche tout type d'entreprise, hein, qu'elle soit très petite, moyenne ou grande. Hein. Et donc, nous, ce que nous essayons de faire comprendre, c'est que, bien évidemment, il s'agit de lutter contre la pandémie, on est tous d'accord. Hein. Mais d'un autre côté, c'est difficile de faire comprendre à ces commerçants qui ont plutôt été exemplaires dans le maintien des mesures barrières, hein, des mesures sanitaires, et ils ont vraiment été exemplaires, c'est difficile de leur faire comprendre que le sort de cette pandémie est plutôt entre leurs mains. On a besoin, bien évidemment, de réouvrir. C'est facile de comprendre pourquoi, parce que sans chiffre d'affaires, vous n'avez pas de revenus. Sans recettes, malheureusement, le travailleur non salarié, puisque ce sont des travailleurs indépendants, ne peuvent pas se rémunérer eux-mêmes. Hein. Il faut, bien évidemment, protéger ses salariés en les mettant au chômage partiel. Mais pour l'indépendant, c'est extrêmement dur. Et puis, certains d'entre eux ont dû acheter, faire des stocks pour les collections de fin d'année. Hein. Je pense à l'habillement, vous avez les jouets, vous avez la bijouterie. Et quand ils voient que Noël se rapproche et que l'ouverture se fait attendre avec instance, ils ont de quoi désespérer. Donc nous attendons bien évidemment d'avoir cette bonne surprise. Nous l'espérons. Hein, nous l'espérons. Et puis en même temps, il faudra maintenir les mesures de soutien, les mesures d'aide. Pour deux raisons. D'abord, quand vous n'avez pas d'activité, toutes vos dépenses, il faut qu'elles soient gelées. C'est impératif, sinon c'est le dépôt de bilan. Et puis lorsque nous réouvrirons, les mesures sanitaires, si elles sont renforcées, risquent de contingenter la clientèle. Donc on n'aura peut-être pas la possibilité de retrouver le niveau de chiffre d'affaires qu'on avait en période normale.
Donc il s'agit de maintenir un certain nombre d'aides une fois que le déconfinement aura eu lieu. Vous évoquiez la question des stocks, François Asselin. Est-ce que c'est aussi une problématique qui se pose aux entreprises qui ne sont pas des commerces, mais qui ont besoin d'écouler leurs marchandises auprès des commerçants?
Oui, vous prenez l'exemple, par exemple, de toutes les concessions automobiles. Hein, elles sont fermées, les garages peuvent rester ouverts, mais la concession, c'est là où on passe commande et on vient prendre livraison de son véhicule. Les concessions étant fermées, en ce moment, le marché de l'automobile est en train de se refermer, de s'écrouler. Du coup, on risque de voir, dans les semaines qui viennent, certains constructeurs se mettent eux aussi au chômage partiel parce que ils ne peuvent pas écouler leurs voitures. Et ça existe aussi dans le petit commerce, hein. C'est-à-dire que là alors d'abord il va y avoir un problème avec le petit commerce, c'est-à-dire que les stocks, il faut pouvoir les payer. Pour pouvoir les payer, il faut bien sûr les vendre. Et là, les stocks ont commencé à être payés depuis le mois d'octobre, novembre, décembre, et ça va s'étaler jusqu'à fin janvier. Vous savez qu'avec la loi LME, il faut payer ses fournisseurs 60 jours maximum, fin de mois, 60 jours date de facture. S'ils n'arrivent pas à payer leurs fournisseurs, c'est une défaillance qu'on risque de voir en chaîne entre le commerçant qui distribue et le fabricant qui, lui, alimente le commerçant.
Est-ce que pour l'instant, on est seulement dans le domaine du risque, François Asselin, ou bien est-ce que vous constatez déjà justement des défauts de paiement et des entreprises et des commerces obligés de mettre la clé sous la porte? J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ces risques-là depuis plusieurs mois, qui évidemment sont pas minces, hein, mais qu'on est plus dans le dans l'expectative que plutôt dans la description d'une réalité.
C'est vrai. Alors, vous avez raison, parce que aujourd'hui, les entreprises sont dans un temps suspendu. C'est-à-dire que, pour l'instant, on a gelé les dettes, hein, on a décalé des remboursements de charges, on a décalé des remboursements d'emprunts. Certains loyers ne sont pas payés. Mais il va arriver un moment où tout cela va s'arrêter. Vous avez déjà des banques qui n'acceptent plus de décaler les remboursements d'emprunts. Si vous ne pouvez pas les payer, eh bien c'est la défaillance. Les URSSAF, hein, c'est là où vous payez vos charges sociales, n'ont pas pour l'instant encore assigné les entreprises qui n'ont pas réglé leurs charges sociales. Mais le jour où les URSSAF vont commencer à signer, eh bien, on va se retrouver face à des entreprises qui seront en défaut de paiement, donc en cessation de paiement, et ça sera la direction du tribunal de commerce. Donc, il va falloir malheureusement s'attendre. C'est évident, c'est sûr, hein, c'est une certitude. Début d'année 2021, à une augmentation en flèche, malheureusement, des défaillances d'entreprises. Donc, il faut protéger, bien évidemment, la personne morale, l'entreprise, et là, il faudra protéger la personne physique, le chef d'entreprise, parce que franchement, c'est le sol qui se dérobe sous ses pieds. Il n'y est absolument pour rien, lui, de cette pandémie. Et pourtant, son activité professionnelle va s'arrêter, il va rester seul avec ses dettes, il faut absolument les accompagner.
Communiqué de la CPME, c'était le 10 novembre dernier, c'est très récent. Il est maintenant impératif de redonner des perspectives aux commerçants. Je rappelle que vous présidez la CPME, hein, François Asselin. À défaut, il est à craindre que la colère et le découragement ne s'emparent du plus grand nombre. La colère, c'est-à-dire ?
Quand vous êtes au bord du désespoir, quand vous êtes très anxieux, eh bien, votre désespoir peut se transformer en colère. On a vu ces derniers jours, hein, des manifestations de commerçants, d'entrepreneurs, hein, des gens de l'événementiel, hein, de la culture, qui se sont regroupés autour de la CPME. C'était à Toulouse, par exemple, vendredi dernier. Il y avait eu Bayonne deux jours avant. Il va y avoir Nantes, il va y avoir Lyon. Tous ces entrepreneurs, eh bien, manifestent dans une grande dignité, en respectant toutes les mesures sanitaires, mais avec un message très fort, très profond, en disant, écoutez, voilà, quoi, ne nous oubliez pas, quoi, on va mourir. Et mourir, si vous voulez, la psychologie des chefs d'entreprise, elle est ainsi, c'est-à-dire qu'on a plus peur de la faillite que du Covid. Il faut le comprendre. Et pour autant, ce ne sont pas des sauvages. On a tous envie de lutter contre cette pandémie. Mais tout est lié. Dans notre vie, c'est un tout.
Alors ne nous oubliez pas, on peut pas dire que le gouvernement oublie le monde de l'entreprise, puisque le reconfinement se déroule dans des conditions qui sont quand même sensiblement différentes de celles du premier confinement. Il y a quand même des mesures qui ont été prises pour que l'activité économique puisse poursuivre, François Asselin. Et puis par ailleurs, il y a donc des mesures d'urgence qui ont été reconduites, hein, on en a évoqué quelques-unes, mais exonération de charges, chômage partiel, fonds de solidarité monter à 10 000 euros par mois, hein, ça c'est le plafond. Il y a des prêts garantis par l'État qui seront remboursables à plus longue échéance. Et il y a des réductions de loyers pour les commerces en difficulté. Et puis il y a eu le plan de relance qui avait été annoncé au printemps. Est-ce que toutes ces mesures-là, vous considérez que c'est le maximum de ce qui peut être fait, ou bien qu'est-ce que vous attendriez en tout cas de plus de la part du gouvernement ? Au-delà de la réouverture des commerces, on a bien compris que vous souhaitiez qu'ils rouvrent.
Mais bien sûr, parce que ce que veulent avant tout les entrepreneurs, c'est de travailler, hein, c'est de vivre de leur travail et non pas vivre de subsides, voyez-vous, hein, ou d'aide. Hein. Mais pour autant, il va falloir effectivement les soutenir. Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement, jusqu'à maintenant, a quand même bien fait les choses. Les mesures d'accompagnement ont tout le temps été bien ciblées, bien calibrées, avec aussi des aménagements au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Aujourd'hui, la difficulté qu'on se retrouve avec, entre autres, hein, beaucoup d'entreprises du secteur commercial, c'est que ces entreprises étaient déjà très fragilisées. Je ne vous rappellerai pas les épisodes des Gilets jaunes ou des grèves massives. Hein. Donc pour un grand nombre de ces entreprises, eh bien, elles étaient déjà fragilisées avant cette période Covid. Et si il y a des mesures d'exonération de charges fiscales, sociales, qui sont d'excellentes mesures. Toutes les autres mesures jusqu'à aujourd'hui sont des mesures où vous poussez de la dette. Je vous parlais par exemple des remboursements d'emprunt. Vous avez acheté un fonds de commerce, vous avez investi dans un outil industriel. Vous arrive cette catastrophe sanitaire. Votre activité s'arrête, est en panne. Vos investissements restent intacts. Il va falloir rembourser votre banquier. Il ne vous fera pas cadeau de vos investissements. Vous n'avez pas de recettes. Votre loyer, tous les mois, il faut le payer à votre bailleur. Mmh. Alors, quand bien même la mesure permet sur le mois de novembre d'avoir peut-être un loyer annulé si votre bailleur vous l'accorde, il n'en demeure pas moins que tous les loyers des mois précédents et peut-être des mois à venir, si vous ne retrouverez pas votre niveau d'activité, il faudra un moment ou un autre les payer. Et si vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires en prévision et concrètement qui arrivent dans vos caisses, eh bien, vous risquez malheureusement de mettre un genou à terre. Donc, les aides, bien évidemment, elles sont plutôt bien faites. Le fonds de solidarité est plutôt quelque chose d'intéressant. Hein. Mais pour autant, il reste des trous dans la raquette. La question des loyers ne sera pas totalement réglée. Et puis, l'État, c'est pas un puissant fonds. Nous sommes tous d'accord.
Est-ce que ces aides, François Asselin, elles doivent se faire sans contrepartie? Si j'ai bien compris la position des organisations patronales, dont la CPME, il ne devrait pas y avoir de contrepartie, notamment des contreparties qui puissent aider à faire advenir cette transition écologique, par exemple en obligeant un certain nombre d'entreprises à produire un bilan annuel de leurs émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ça, vous dites, non, ça n'est pas le bon moment? Alors qu'on nous a quand même beaucoup expliqué pendant le premier confinement qu'il fallait changer de modèle.
Alors, votre question est intéressante parce que d'abord, c'est le volet plan de relance. Hein. Mmh. On a parlé du soutien et là, vous abordez le plan de relance qu'il faut bien évidemment surtout ne pas oublier. Il est essentiel pour le rebond économique de notre pays. Cette histoire de contrepartie, quand vous avez une prime d'apprentissage, la contrepartie, c'est le recrutement de l'apprenti. Lorsque vous avez une prime à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, la contrepartie, c'est l'embauche de ce jeune. Donc, il y a contrepartie. Et dans les parties, dans le volet investissement, subvention potentielle de l'État, lorsque vous investissez, votre investissement doit décarboner votre activité pour avoir déjà la contrepartie de l'État ou de votre région. Donc, la contrepartie, elle existe, voyez-vous. Hein, et ce que prévoit et ce que voudrait prévoir le législateur, c'est de faire un bilan carbone au-delà de 50 salariés si jamais vous avez une subvention liée à un investissement.
Or, ça paraît logique.
De toute façon, oui, mais ce que nous disons, si vous voulez, c'est pas tellement le fait de rentrer. Ce que nous disons, c'est qu'il faut que ça soit utile. C'est-à-dire que si on vous met une charge administrative qui ne va servir à rien, eh bien, c'est absurde. Voilà, on veut du bon sens. Hein. Et ce bilan carbone, eh bien, très honnêtement, on ne voit pas très concrètement ce à quoi ça va servir, sinon remplir une charge administrative supplémentaire. Pour autant, il est tout à fait logique que si vous avez une subvention de l'État, eh bien, on vous demande que cet investissement, eh bien, puisse décarboner l'activité que vous voulez faire. En clair, vous n'aurez jamais une subvention si vous achetez une chaudière au fioul.
Alors François Asselin, il y a la question des contreparties et puis il y a aussi la question de la réorganisation du travail qui est provoquée par cette pandémie, à la fois parce qu'il y a eu des contraintes et puis peut-être aussi parce que ça permet de réfléchir à la façon de reconsidérer la place du travail et de son organisation dans la société. Il y a notamment un débat qui est important en ce moment, notamment entre les organisations syndicales et les organisations patronales, c'est celle du télétravail. Quelle est la position de la CPME sur le sujet? Est-ce qu'il faut laisser à chaque entreprise le soin d'organiser ce télétravail? Ou bien est-ce qu'il faut passer, comme le souhaitent les syndicats de salariés, par un accord national interprofessionnel?
Alors, on a vécu et on est en train encore de vivre une expérience collective qui est assez étonnante, si vous voulez. Parce que ce télétravail qui, pour beaucoup de salariés, était quelque part le Graal inaccessible, et qui, pour beaucoup d'employeurs, se disait « mais c'est pas possible, c'est une perte d'activité terrible », eh bien, on s'est aperçu que ceux qui rêvaient au télétravail, après l'avoir vécu dans des conditions, on est tous d'accord, très spécifiques, mais se sont dit finalement « être au bureau ou être à l'entreprise », franchement, c'est pas si mal que ça. Hein. Et puis beaucoup d'employeurs qui se sont dit mais ça peut pas tourner, se sont aperçus que ça pouvait quand même tourner. Hein. Donc aujourd'hui, dans les PME, je dis bien dans les PME, le télétravail, dans l'immense majorité des cas, c'est absolument pas un sujet de division. On a, nous, constaté à la CPME, parmi nos adhérents, que lors de ce deuxième confinement, on avait plutôt affaire à une fronde de salariés qui ne voulaient surtout pas du télétravail à 100%. Et on peut le comprendre.
Il y a aussi ensuite, des témoignages qui renvoient à des salariés qui expliquent, alors c'est plutôt sous couvert d'anonymat en général, mais qu'ils reçoivent des pressions de la part de leurs employeurs pour être au maximum présents sur leur lieu de travail. Ça existe aussi dans ce sens-là, François Asselin.
Vous savez, rien n'est parfait dans ce bas monde. Hein. Vous trouverez des exemples dans les deux sens.
Ni les salariés, ni les patrons, vous voulez dire ?
Voilà, exactement. Hein, voilà. Personne n'est parfait. Hein. Mais pour autant, ce qu'on constate, c'est que globalement, lorsque c'est au niveau de l'entreprise, dans un dialogue social serein, eh bien, on arrive à trouver des solutions. Et puis l'autre phénomène aussi, c'est que le sujet du télétravail est quand même pas tout à fait le même à Paris ou dans une grande métropole qu'en milieu rural ou semi-rural. La question du télétravail est intimement liée aussi au transport en commun. Hein. Et donc, là,
donc ça veut dire quoi ? Vous êtes contre un accord national sur le sujet ?
C'est-à-dire que vous savez, on travaille. Le télétravail est organisé à partir des ordonnances de 2015, hein, qui permettent entre guillemets de connaître un petit peu le cadre général de ce télétravail. Là, ce que l'on vit, c'est une obligation télétravail quelque part. C'est une continuité de l'activité professionnelle à domicile. Hein. Donc, c'est pas du télétravail en temps, on va dire normal. Donc, nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que si on doit discuter de quelque chose et négocier quelque chose, il faut peut-être prendre ce cadre tout à fait spécifique et particulier pour le traiter. Ce que nous vivons en ce moment. On ne travaille pas sur une négociation télétravail sous une pression qui ne correspond pas qui ne correspondra pas, entre guillemets, à la façon normale d'utiliser le télétravail. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis ces ordonnances, le télétravail s'était fortement développé dans notre pays. Hein. Donc, et pourquoi ? Parce qu'il y avait un espace de dialogue et de liberté au sein de l'entreprise pour pouvoir le mettre en place. Et puis, on a des problème tout à fait concret, hein, c'est-à-dire que le territoire n'est pas maillé partout en haut débit, hein, et on s'est aperçu que certaines entreprises qui pouvaient avoir des postes en télétravail, qui voulaient le faire, eh bien quand les gens étaient à domicile, le temps de téléchargement des fichiers d'entreprise était tel que c'était quasiment impossible de travailler.
Hein. Alors donc, pardonnez-moi François Asselin, là on parle des personnes qui ont la chance d'avoir un travail. Il y a ceux qui n'en ont pas ou ceux qui n'en ont plus. Et il y a un autre sujet sur lequel travaillent les partenaires sociaux, c'est l'assurance chômage. Alors les droits à l'assurance chômage, là aussi, par ces temps de crise, sont prolongés pendant la durée du confinement. Il y a une réforme qui a été repoussée, qui doit normalement entrer en vigueur le 1er avril 2021. Est-ce que vous considérez, vous comme président de la CPME, qu'il faut maintenir et cette date et le contenu de cette réforme qui durcit les conditions d'accès à l'assurance chômage ?
Une chose est claire, c'est qu'on ne va pas, entre guillemets, resserrer les droits des demandeurs d'emploi, ni d'ailleurs le bonus-malus pour certains secteurs économiques, hein, certaines entreprises, dans une période telle que celle qu'on traverse, quoi. Non, c'est pas possible. Hein. Donc, il faut bien évidemment suspendre cette réforme. Mais oui, cette réforme, il faudra la faire. Pourquoi ? Parce que on dit bien assurance chômage. C'est un système assurantiel, et le meilleur système assurantiel, c'est celui qui, premièrement, eh bien, indemnise correctement la personne qui a un accident de parcours professionnel et qui, en même temps, le raccroche le plus rapidement possible au marché de l'emploi. Et malheureusement, le système tel qu'il est aujourd'hui construit, eh bien, ne permet pas ces deux choses.
Mais François Asselin, est-ce que le système d'assurance chômage tel qu'il existe justement aujourd'hui n'apporte pas la preuve que il permet de se confronter à une crise aussi importante que celle du Covid-19? Dans quelle situation se retrouveraient peut-être les personnes qui y ont accès si la réforme était passée?
C'est pour ça qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et il faut surseoir effectivement à cette réforme, parce que difficile de trouver de l'emploi quand les entreprises sont fermées. Hein. Essayer aujourd'hui de trouver un stage ou un emploi dans un commerce de proximité, ça va être très compliqué, nous sommes tous d'accord. D'où effectivement le fait de laisser cette réforme suspendue, hein, le temps de traverser cette période ô combien compliquée pour tous les Français. Hein. Et puis le jour où les affaires reviendront dans le bon sens, c'est ce qu'il faut espérer le plus rapidement possible. Oui, il faudra entamer cette réforme. C'est important. Vous savez, lorsqu'on perd son emploi, l'enjeu premier, c'est d'en retrouver un le plus rapidement possible. Aujourd'hui, c'est pas possible, donc on sursoit cette réforme. Mais demain, il faudra bien évidemment entamer et dérouler la réforme.
Et ça se passera notamment à travers les instances du dialogue social, François Asselin. Dialogue social, ça veut dire que les entreprises et les syndicats ont bien sûr un rôle économique et social, mais aussi un rôle politique. Bonjour Antoine Dulster.
Bonjour.
C'est un rôle plus ou moins marqué selon les époques, et vous revenez ce matin dans votre chronique sur ces grands moments d'engagement des entreprises en politique.
Oui, c'est une histoire mouvementée hein, qu'on pourrait faire remonter au Moyen-Âge avec par exemple la grande figure du prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, qui tenta dès le XIVe siècle d'impulser une forme de contrôle du pouvoir des monarques, notamment sur le plan fiscal. Beaucoup plus près de nous, c'est à la fin du XIXe siècle que les indépendants et les petits patrons s'imposent comme des piliers du régime républicain naissant. Dans un discours célèbre de 1874, Léon Gambetta salue cette nouvelle couche sociale, ce monde de petits propriétaires, de petits industriels, de petits boutiquiers. Dans cette république du compromis, chère au parti radical, ces petits patrons se retrouvent à l'époque plutôt au centre et parfois à gauche. Ils défendent énergiquement la méritocratie républicaine, la promotion sociale via l'école. Mais cette affiliation partisane ne résiste pas à la crise économique qui vient avec son corollaire, la peur du déclassement. C'est l'historienne Claire Zalk qui l'écrit. Les années 30 constituent une rupture et consacrent le virage à droite des classes moyennes indépendantes. Et cette tendance se maintiendra tout au long du XXe siècle. Les partis de gauche, notamment le Parti socialiste, n'abandonnent pas pourtant l'espoir de voir ces chefs d'entreprise les rejoindre. Comme dans cet archive de mars 1981, vous allez entendre la voix de Lionel Jospin. Selon lui, les PME ne sont pas les ennemis des travailleurs, bien au contraire.
Nous n'avons pas dit que nous voulions socialiser ou nationaliser l'ensemble des activités économiques. Nous avons dit que nous avions l'intention de nationaliser quelques grandes entreprises. Les autres, donc, doivent pouvoir vivre. Deuxième élément, l'emploi en France est représenté à plus de 50% par des petites et moyennes entreprises. Il faut qu'elles vivent. Nous souhaitons qu'elles puissent distribuer des salaires suffisants. Nous ne voulons pas que les travailleurs dans les petites et moyennes entreprises soient condamnés à vivre au SMIC ou en dessous du SMIC. Il faut donc aider autrement ces petites et moyennes entreprises. Et il faut les aider notamment en leur permettant un accès au crédit qu'ils auraient refusé actuellement.
Et cette main tendue n'empêchera pas les artisans et commerçants de continuer d'apporter leur soutien à la droite, parfois à l'extrême droite, dans la continuité d'un épisode marquant, le poujadisme, qui avait été motivé par une fronde anti-impôt des petits patrons dans les années 50. Mais les temps changent, y compris dans le regard porté sur les artisans, commerçants et petits patrons. Et c'est encore l'historienne Claire Zalk qui l'écrit. Au temps de la société salariale conquérante, il était difficile de considérer les petits commerçants et artisans autrement que comme les avatars d'une société traditionnelle. Les temps ont changé, flexibilité, indépendance, création d'entreprises, start-up, les petits patrons sont revenus à la mode. Alors évidemment, ces lignes ont été écrites avant la crise sanitaire. Reste donc à savoir si, dans ce contexte dramatique pour de nombreux patrons, la présence à l'Élysée d'Emmanuel Macron, le tenant de la Startup Nation, si cela est un élément suffisant pour rassurer et pour soutenir suffisamment le milieu des chefs d'entreprise.
Eh ben, c'est la question qu'on va poser. Ce sera la toute dernière à François Asselin, patron de la CPME. La présence d'Emmanuel Macron à l'Élysée, c'est rassurant pour un chef d'entreprise ?
Vous savez, ce qu'il faut, c'est éviter tout dogmatisme. Les chefs d'entreprise, ce qui les fait vibrer, c'est la libre entreprise. C'est le fait d'avoir cette belle capacité à se mettre à son compte ou à reprendre une activité, donc à prendre des risques. Donc il faut avoir un pouvoir, un exécutif qui encourage la prise de risque. Pourquoi ? Parce que ce qui crée la richesse, eh bien, c'est ce tissu économique incontournable, incomparable que nous avons dans notre pays. C'est 99% des entreprises. Donc la victoire économique de notre pays et le rebond économique ne pourra pas se faire sans les PME et les TPE.
Eh bien, et le fait d'avoir un exécutif... Ce sera la conclusion, si vous voulez bien, François Asselin.
En ce sens, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà, merci. Merci beaucoup, désolé. Merci François Asselin, donc président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises politiques. C'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Assia Ralid, avec à la prise de son Ludovic Auger, émission que vous pouvez écouter, télécharger sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Voilà, pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi à 8h45 pour la transition dans les matins de France Culture.